Page 34, la période des juges. Après la mort de Josué, les Israélites furent gouvernés par le conseil des anciens, le Sanhédrin, 72 je crois, qui était pris des 12 tribus d'Israël. Trop vite, ils oublièrent ce que Dieu, qui fut le conquérant de la terre promise, que c'est Dieu qui fut le conquérant de la terre promise par l'intermédiaire de Josué. Ils contractèrent des alliances avec les infidèles, avec les païens, et les idolâtres, et tombèrent dans l'idolâtrie. Pour les punir, Dieu les livra à leurs ennemis, parce qu'ils n'avaient pas conquis toute la terre sainte. Dès qu'ils avaient un territoire suffisant, ils se sont arrêtés, alors que Dieu leur avait dit de continuer. D'ailleurs, les sionistes actuels, eux, disent « il faut qu'on ait le territoire qui a été promis ». C'est-à-dire du Nil jusqu'à l'Euphrate. Les Israélites à l'époque n'ont pas osé. Quand ils étaient là, ils disaient ah non, c'est bien, on arrête. Du coup, ils ont laissé la bande de Gaza. Ça vous dit quelque chose peut-être, la bande de Gaza? C'est les Philistins. Donc les Philistins étaient là sur le bord de la Méditerranée. Ils ont vu plein de villes tomber. Eux, ils avaient 5 grandes villes, les Philistins. Et ils ont résisté très longtemps. Et ils ont ennuyé. Pour pas être vulgaire, ils ont beaucoup ennuyé les Juifs pendant des siècles. Et encore maintenant, comme les Juifs sont partis en l'an 70 et qu'ils sont revenus en 1948, les Philistins, eux, sont pas partis. Hein? Alors vous avez des Palestiniens qui sont sémites, qui sont jordaniens, qui sont, qui sont devenus chrétiens, d'autres sont devenus musulmans. Mais ceux qui sont sur la bande de Gaza, ce sont un certain nombre sont des descendants des Philistins. Ça va faire 3000 ans, 3200 ans qu'ils se font la guerre. Vieille guerre quand même, hein. Nous, avec la guerre de 100 ans, on fait petits joueurs, hein. Donc, pour les punir, Dieu les livra à leurs ennemis, qui les réduisirent en servitude. Vous aviez les armées philistines qui arrivaient, qui prenaient une ou deux villes juives, et qui restaient là, enfin, juives. Ça sera au moment du roi David qu'on en parlera du peuple juif. C'est encore le peuple hébreu. Et ils souffraient. Alors Dieu leur envoyait un général ou une personne providentielle, même une femme, qui, à l'image de Sainte Jeanne d'Arc, galvanisait les troupes et ils regagnaient leur ville et ils chassaient les Philistins dans leur ville. Et ça faisait des allers-retours comme ça pendant 400... environ 300 ans. Pour les punir, Dieu les livra à leurs ennemis, qui les réduisirent en servitude. Lorsque l'épreuve ramenait le peuple au devoir, le Seigneur, toujours patient et miséricordieux, leur pardonnait et lui suscitait des libérateurs appelés juges. Les plus célèbres furent Gédéon et Samuel. Bon, c'est un peu macho, hein, parce qu'il y a aussi, Judith. Il n'y a pas drôle, hein, Judith. Hein. Elle va couper la tête d'un général ennemi. Hein. Ensuite, vous avez Samson. Voilà. Mais il vous raconte deux histoires, celle de Gédéon et celle de Samuel qui est juste avant le roi. Et ça, c'est important. Samuel sera le prophète, juge et prophète, qui est vraiment inspiré par Dieu et qui parle au nom de Dieu, qui va introduire la royauté. Dieu ne veut pas de la royauté, il veut que le peuple soit pieux et vive les 10 commandements sans avoir besoin d'un grand chef. Mais comme il réclame un chef, Dieu va leur donner un chef. Et si vous vous souvenez de la prophétie de Jacob Israël, Jacob avait dit à Judas que le sceptre sera dans sa tribu. Et quand le sceptre sortira de sa tribu, eh bien celui qui est attendu viendra. Et c'est quand la tribu de Juda a perdu tout que quelqu'un d'autre a été proclamé roi à la place d'un descendant de Juda, Hérode, un Iduméen, que Jésus est né. Une prophétie de 1600-1700 ans. Oh mais non, c'est pas possible, gna gna gna. Bon, les manuscrits de la Mère Morte, on voit cette prophétie au moins 400 ans avant Jésus-Christ. Elle est dans la Genèse. Gédéon. Depuis 7 ans, les Madianites, Madian, hein, c'était un peuple à côté, opprimaient les Israélites. Ils pillaient les récoltes et ravageaient le pays. Alors le peuple se tourna vers le Seigneur pour demander secours. Dieu eut pitié de lui et suscita Gédéon pour le délivrer. Un jour que Gédéon battait du blé, l'ange de Dieu lui apparut et dit, donc c'était un paysan hein, quand même, hein, « Lève-toi et délivre Israël du joug des Madianites. C'est toi que j'ai choisi pour délivrer Israël. » « Hélas, répondit Gédéon, comment délivrerai-je Israël ? Ma famille est pauvre et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'ange répliqua, « Dieu sera avec toi et tu battras les Madianites. » Jeanne d'Arc, hein. Tu vas aller faire sacrer le roi de France. Oh, « Je suis une paysanne, comment ça va se passer ?» Eh bien, ça s'est passé. Gédéon reconnut la volonté de Dieu. Plein de confiance, il leva une armée. C'est la toison d'or. Là, il parle pas de la preuve qu'a voulu Gédéon. Dieu a accepté qu'il lui demande une preuve. Pour Zacharie, muet pendant un an. Hein, mais pour Gédéon, il a dit, eh bien, tu mettras une toison de moutons sur le sol. Le lendemain matin, il y avait de la rosée tout autour de la toison. Et pas sur la toison. Et le surlendemain, il y avait la rosée sur la toison et pas autour de la toison. Ce qui est impossible. C'est un mini miracle, tout mignon. Mais voilà, il y avait la rosée, elle est partout quand il y a de la rosée. Et du coup, chez les princes chrétiens, lors de la toison d'or, c'est, vous voyez, une peau de mouton en or pendue au collier. Lors de la toison d'or, c'est en référence à Gédéon et à la toison de mouton qu'il avait posée par terre pour que Dieu fasse ce miracle. Dieu lui avait promis de faire un miracle particulier à l'occasion de cette peau de bête qu'il avait posée sur le sol, la toison d'or. Gédéon reconnut la volonté de Dieu, plein de confiance, il leva une armée. Le Seigneur lui fit renvoyer les timides. 22 000 hommes s'en retournèrent. Il avait 32 000 hommes. Il était content quand même. 32 000 Israélites qui étaient prêts à se battre. Et alors, il lui dit, tous ceux qui sont mariés, tous ceux qui ont des enfants, ils partent. Parce ils auront peur de mourir pendant le combat pour revenir auprès de leur épouse et leurs enfants. Il y en a 22 000 qui parlent. Il n'en reste que 10 000. C'était encore trop pour Dieu. Parce qu'il voulait que la victoire soit miraculeuse. Et pas au nombre des Israélites. Gédéon n'en garda que 300. Pourquoi ? Il les fit passer par un torrent. Et Dieu lui avait dit, tu ne retiendras que ceux qui boivent sans s'arrêter et en marchant. Tous ceux qui s'arrêtent, deux pieds parallèles, qui se fléchissent et qui boivent pour se désaltérer, c'est des paresseux. C'est pas décourageux, ceux qui continuent à marcher et qui prennent une lampée simplement avec la main et qui boivent comme ça, ça sera les combattants. 300. Les autres sont arrêtés, Gédéon il est là. Donc il y en a 300 qui sortent du torrent, qui est un petit torrent de, je sais pas, 20-30 cm. Les autres gars sont en train de boire et Gédéon dit, ben messieurs, vous êtes pas assez courageux. Alors qu'ils étaient restés après la première épreuve quand même. Bon. Il donna à chacun une trompette et un vase renfermant un flambeau. Ainsi armés, ses braves pénétrèrent la nuit dans le camp des Madianites. Au signal donné, ils brisèrent les vases. Ça fait un vacarme terrible, enfin 300 vases. Et sonnèrent de la trompette en criant « L'épée du Seigneur et l'épée de Gédéon ». 300 torches. Et ils crurent que c'était 32 000 hommes, parce qu'ils avaient entendu parler de l'armée de 32 000 hommes. Ils ne savaient pas qu'il y avait plus que 300. Donc ils pensaient qu'il y avait 32 000 hommes qui les attaquaient de nuit. Ils voyaient 300 flambeaux. Ils auraient pu imaginer un peu plus quand même, mais bon. Et les ennemis se crurent surpris par une puissante armée. Ils s'enfuirent et ne se reconnaissant plus, ils s'entretuèrent. C'est-à-dire que là, il y a un miracle aussi. Parce que qui panique, je veux bien. Mais ensuite, ils se sont battus toute la nuit entre eux, dans le noir. Et au petit matin, toute l'armée madianite était morte. Enfin, beaucoup. Et les restants sont partis sans demander leur reste. Alors voilà. Alors vous allez me dire, c'est plutôt une stratégie absolument intelligente de la part de Gédéon. Voilà. Les exégètes vont vous dire, mais non, c'est pas miraculeux. Gédéon, c'était le Napoléon de l'époque. Gédéon refusa d'être roi des Israélites. Il proclama que Dieu seul doit régner sur son peuple et il retourna à son champ. Samuel, une femme nommée Anne, désirait vivement avoir un fils. Elle pria Dieu et fit un vœu en disant, « Seigneur, si vous daignez me donner un fils, je vous le consacrerai pour tous les jours de sa vie. » Alors elle était là, et vous aviez le grand prêtre, Élie, H-E-L-I, pas le prophète. Et il voit cette femme dans le parvis du temple, qui prie comme ça. Pas le parvis du temple, le parvis du tabernacle. Le temple n'est pas encore construit. « Oh, j'ai pas d'enfant, mon mari est très gentil. » Mais il a pris une deuxième femme pour avoir des enfants. Sa deuxième femme m'insulte et se moque de moi. Et son mari, qui était un saint homme, mais la polygamie était tolérée à l'époque, hein, lui a dit, mais est-ce que mon amour ne te vaut pas 10 enfants? C'est joli, hein? C'est dans la Sainte Écriture, hein. Mais elle voilà un enfant. Donc elle est là, elle prie tellement, elle pleure tellement que le grand prêtre Élie arrive et lui dit, oh, quand tu auras cuvé ton vin, hein, tu pourras revenir, mais arrête, tu es saoul. Non, je ne suis pas saoul, je n'ai pas bu, mais je suis tellement triste et tellement mélancolique. Alors, le grand prêtre Élie lui dit, eh bien que Dieu t'exauce. Et un an plus tard, elle revient avec le bébé. Voilà. Il lui donna un fils qu'elle appela Samuel. C'était de la tribu de Lévi, hein, et de la famille d'Aaron, je crois, hein, Samuel. Quand Samuel eut grandi, sa mère le confia au grand prêtre Élie, en lui disant, « Voilà l'enfant pour qui j'ai prié le Seigneur. Il a écouté ma prière, j'en fais don à Dieu pour toute sa vie. » Donc, Élie avait comme, parmi les Lévites qui étaient là, il avait Samuel. Le jeune Samuel servait le Seigneur dans le temple sous les yeux d'Élie. Une nuit, Dieu appela Samuel pendant qu'il dormait. Croyant que c'était le grand prêtre, l'enfant, 12 ans, hein, il a fait sa bar mitzvah, c'est un enfant, c'est un adulte religieusement. L'enfant courut à lui. « Me voici, dit-il, car vous m'avez appelé. » Et là, Élie, « Non, répondit Élie, retourne et dors. » Trois fois, la même voix se fit entendre. « Samuel, Samuel !» La troisième fois, sur l'ordre du grand prêtre s'est dit, « Oula, ça faisait près de 200 ans qu'il n'y avait pas eu de prophète. Hein. » « Quand tu entendras ton nom, dis, « Parlez, Seigneur, votre serviteur, écoute. » Alors il repart, obéissant, et il entend. « Samuel, Samuel !» Et là, Samuel se lève, et au lieu d'aller embêter Élie, « Parlez, Seigneur, votre serviteur écoute. » Le Seigneur lui dit, parce que à l'époque, il n'est pas très rigolo, le Seigneur, « Je vais châtier Élie et sa famille à cause des crimes dont ses fils se rendent coupables. » Parce que les fils du grand prêtre, qui allait devenir grand prêtre à sa place, suivant le droit d'aînesse, étaient des voleurs. Il ponctionnait les gens, il en demandait plus que la dîme. C'était des gens scandaleux et des évêques et des prêtres pourris. Voilà. Et donc, ça existait hein, quand même, 1000 ans avant Jésus-Christ quand même. Et là, Dieu a dit, je vais les éliminer. Comme il peut le faire aussi de nos jours. Et là, vous avez le petit dessin. Samuel reçoit les communications du Seigneur. Le jeune Lévite est à genoux et vers lui se dirigent les rayons divins d'une clarté éblouissante. Deux anges lui transmettent ses communications célestes. Le grand prêtre Élie repose dans la locale, dans un local voisin. Alors là, ils mettent c'était des tentes, hein, ils étaient sous les tentes, hein, encore. Les deux fils d'Élie, alors, le lendemain, il y a Élie qui lui dit, qu'est-ce qui s'est passé, alors? Ah ben, là-bas. Hein, ça, c'est, moi, je connais l'hébreu, ça n'est pas de l'hébreu, ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui t'a donné, hein? Eh ben, Dieu m'a parlé. Eh ben, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, j'ose pas trop vous le dire. Dis-le. Eh ben, il va y avoir une guerre. Vos fils vont partir avec l'Arche d'Alliance qui va être prise par les armées idolâtres. Et vous, ils vont mourir et vous aussi, vous allez mourir. Oh, quelle bonne nouvelle! Merci Samuel. Samuel raconta tout à Élie sans rien cacher. Et Élie, qui était un saint homme faible vis-à-vis de ses deux fils, hein, mais lui répondit, « Le Seigneur fera ce qui lui semblera bon. » Dans la Bible, il dit, « C'est le Seigneur. Il fera ce qui lui semblera bon. » C'est le Seigneur. C'est le chef, c'est le Tout-Puissant. Alors, pourquoi ça marche pas? Ah mince alors, là ça va être très embêtant. Pourquoi ça a sauté? Donc, Samuel, et le pauvre, les deux fils d'Élie furent tués dans une guerre contre les Philistins. Les Philistins arrivent. Les deux fils disent, oh, on va gagner, on va sortir l'Arche d'Alliance. Vous allez voir, ça va faire comme la traversée du Jourdain. Parce que j'avais oublié, le miracle de la traversée du Jourdain, c'est quand les prêtres, avec l'Arche d'Alliance, posent le pied dans le fleuve, avec l'Arche d'Alliance, et le fleuve s'arrête à cause de l'Arche d'Alliance qui passe. Donc il dit, on va gagner la guerre avec l'Arche d'Alliance. Et là, les Philistins arrivent, et vont vaincre l'armée d'Israël, et vont gagner la guerre. Ça va être terrible pour eux, l'Arche d'Alliance va être prise, les deux fils meurent, vous avez un messager qui vient voir le grand prêtre Élie, qui lui dit, l'Arche d'Alliance a été prise, vos deux fils sont morts, et lui, effrayé de cette nouvelle, épouvanté de cette nouvelle, tombe en arrière et se casse la tête. Voilà. Et meurt. Et on peut penser que lui a sauvé son âme. Ces deux fils, je ne sais pas si en ce moment ils sont encore au purgatoire. Peut-être qu'ils ont raté le purgatoire. Et donc, voilà. L'Arche d'Alliance resta aux mains des infidèles. À cette nouvelle, le grand prêtre tombe de son siège et se brisa la tête. Samuel devint juge. Il dit au peuple, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à Dieu, attachez-vous fermement à lui et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Alors les enfants d'Israël détruisirent les idoles et servirent Dieu. Les Philistins vinrent de nouveau attaquer Israël, mais Dieu fit retentir son tonnerre qui les mit en déroute. » Alors, il y a un petit épisode amusant, un peu rapide. Figurez-vous que les Philistins avaient l'Arche d'Alliance et ils ont rendu l'Arche d'Alliance assez vite sur un attelage avec des bœufs. Lorsque les Israélites ont vu l'Arche d'Alliance sur un attelage avec quatre paires de bœufs ou deux paires de bœufs, quatre bœufs, ils ont appelé les prêtres ont pris l'Arche, ont offert les bœufs en sacrifice et on a repris l'Arche. Mais ils avaient, il y avait cinq fessiers en or. Mais oui, c'est des détails. Mais justement, quand vous lisez la Bible bêtement, il y a des guerres, des massacres et tout, donc vous comprenez rien. C'est pour ça que l'Église catholique a toujours dit qu'on ne peut pas lire la Bible sans commentaire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est un épisode amusant, si vous voulez. C'est un miracle amusant. Les exégètes, devant ce miracle, ils sont un peu interdits. Ils ne savent pas quoi faire. Vous avez, dans la ville principale des Philistins, ils ont mis l'Arche d'Alliance dans le temple de Dagon, leur dieu dragon, leur dieu... Le lendemain, vous avez la statue de Dagon qui est tombée par terre. Je crois qu'elle devait être en métal ou en bronze, devant l'Arche. Alors ils redressent leur statue... Ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? Le surlendemain, la tête de la statue et les mains de la statue sont devant l'arche. Et qui a coupé la tête de notre statue? C'est pas gentil. Enfin, voilà. Et le surlendemain, tout le monde a la gastro dans la ville. Mais ils en peuvent plus, ils en peuvent plus, ils en peuvent plus. Ils vomissent par le devant, et voilà. Et c'est ça. Et alors, ils se disent, c'est pas possible. Alors, ils portent l'arche dans une autre grande ville de la Philistie. Et tout recommence. Tout le monde est malade, tandis que la première ville, les gens guérissent. Et ils vont faire ça juste dans les cinq grandes villes de la Philistie. Et à chaque fois, c'est la même chose. Quand l'Arche d'Alliance arrive dans la ville, tout le monde a la gastro. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, oh leur Dieu, il a de l'humour. Mais il est plus fort que notre Dieu Dagon. On va leur rendre leur Dieu. Et pour se faire pardonner, on va faire cinq fessiers en or, en ex voto, pour se faire pardonner de leur Dieu, du Dieu des Hébreux. Voilà, petit passage drôle. Et vous savez que dans le psaume, il est dit, il leur a infligé une honte éternelle aux Philistins. Et peut-être qu'encore maintenant, les Israélites parfois se moquent de la bande de Gaza en disant, vous savez, vous, hein, il vous a donné la chiasse, notre Dieu, un jour. Hein. Bon. Page 36. Ça aurait été dommage que ce ne soit pas enregistré. On verra bien si. La royauté en terre promise. L'institution de la royauté consacre le développement religieux d'Israël. Car le roi est un personnage sanctifié par l'onction, l'huile d'olive. Il est le dépositaire du pouvoir de Dieu qui lui délègue en quelque sorte la possession de son héritage. Les 12 patriarches des tribus d'Israël ne veulent plus exercer le pouvoir. Ça sera un seul homme qui exercera le pouvoir. Mais comme le vrai roi c'est Dieu, ça sera le vicaire de Dieu. Ça sera le lieutenant de Dieu, le roi. Le vrai roi. Pas comme le roi des nations, le roi des idolâtres qui est un tyran. Le bon roi c'est celui qui représente l'amour et la bonté paternelle de Dieu. Il n'y a pas de roi sans qu'il soit chrétien, en quelque sorte. De pas de bon chef, de chef vertueux. Saül règne sur Israël. Lorsque Samuel fut devenu vieux, les anciens d'Israël lui dirent, « Voilà que tu es vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Établis donc sur nous un roi, comme en ont toutes les nations. » Ce langage déplut à Samuel. Il consulta le Seigneur qui lui dit, « Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi, pour que je ne règne plus sur eux. Écoute leur voix, mais fais-leur connaître les exigences du roi qui régnera sur eux. » Puis Dieu annonça à Samuel qu'il allait recevoir la visite de celui qui avait été choisi pour être le roi de son peuple. Le lendemain arriva un jeune homme, nommé Saül, qui était à la recherche des ânesses de son père. Il dépassait de la tête ceux qui l'entouraient. Samuel l'oignit d'huile en secret. C'est toi qui deviendras le roi d'Israël. Il prend une petite fiole d'huile et il la verse sur la tête de Samuel. Alors Samuel était vraiment le roi, quoi. C'était un type, un baraqué d'1m90, 2m, beau, chevelure, tout. C'était vraiment le roi. Hein, c'est... Et les Juifs étaient contents, quoi. C'était vraiment le bonhomme, le guerrier, quoi. Quelque temps après, Samuel dit au peuple, « Vous voyez celui que le Seigneur a choisi, il n'y en a point de semblable parmi vous. » Et tout le peuple poussa des cris en disant, « Vive le roi !» Seulement, il n'était pas terrible ce roi. Hein. Il avait peur, il était superstitieux, il demandait toujours à Samuel s'il allait gagner une bataille. Voilà. Samuel dit à Saül, « Amalek a fait souffrir Israël à sa sortie de l'Égypte. Va et frappe ce peuple idolâtre. Tu feras mourir hommes et bêtes. » Saül battit Amalek et retint pour lui-même la meilleure partie du butin. Samuel avait dit qu'on ferait un anathème sur le butin. Et lui, il dit, oh, qu'elles sont belles ces vaches. Oh, ils sont jolis ces moutons. Ça serait quand même bête de tous les tuer. Hein? On va en garder un peu. Hein? Voilà. Quand Samuel vint reprocher à Saül sa désobéissance, le roi lui dit, sois béni de Dieu, j'ai exécuté sa parole. Mais le peuple a épargné le roi Agag et le meilleur des brebis et des bœufs pour les sacrifier à Dieu. Moi, j'ai pris les moins jolis, quelques milliers, centaines. Hein, bon. Le reste, nous l'avons voué à l'anathème. Enfin, il s'en mêle les pinceaux, il en a gardé. Hein, bon. Alors Samuel lui répondit, l'obéissance vaut mieux que les victimes. Il dit encore à Saül, « Dieu te rejette, tu ne seras plus roi sur Israël. » Et il va faire encore... Samuel aimait beaucoup Saül, aussi fut-il affligé de le voir rejeté par Dieu. À partir de ce jour, il résolut de ne plus voir le roi. Le Seigneur dit à Samuel, « Remplis ta corne. » Une corne, c'est une corne de bête creusée. On met un bouchon. Une fiole, mais en corne d'animal. Remplis ta corne d'huile et rends-toi à Bethléem. Ça vous dit quelque chose, peut-être Bethléem, hein, dans quelques semaines, on en entendra parler, pour sacrer David. L'autre était de la tribu de Benjamin, je crois, Saül, tandis que David est de la tribu de Judas. D'où le nom de Juif. Pas Judas Iscariote, celui qui livrera le Seigneur par dépit, par déception. Quand le jeune homme parut, Dieu dit à Samuel, « Voici celui que j'ai choisi, ne tarde pas à le sacrer. » Samuel prit aussitôt la corne pleine d'huile et sacra David au milieu de ses frères. Alors, ce qui était particulier, c'est que le prophète est à côté de l'autel, il tient en main la corne d'huile pour la consécration royale, le jeune David est près de son père, ses frères sont à sa gauche. David était le plus petit et le plus jeune. Le père de David, Jessé. Jessé avait des fils, des gaillards, plus solides, plus musclés. David était relativement musclé, mais un peu petit. Il était très beau de visage, nous dit la Sainte Écriture, il était roux et avait un très beau visage. Mais il n'était pas le grand gaillard qu'était Saül. Enfin, quand il fera la guerre, il la fera bien. Hein. C'est un stratège et en même temps un homme très courageux, David. Mais bon, quand Samuel l'a vu, il dit, c'est un petit jeune homme. Vous voyez ? Les Israélites campaient sur une montagne en face de leurs ennemis. Les Philistins attaquent. Alors, un géant du nom de Goliath, qui faisait au moins 2,40 m, le bonhomme, « Mais c'est pas possible, nous disent les exégètes modernes, un homme peut pas faire 2,40 m. » Eh ben, vous savez qu'aux Invalides, vous avez une armure. Le bonhomme, il faisait au moins 2,10 m. Hein. Au moins 2,10 m. L'armure a été faite pour lui. Quand vous voyez l'armure, qui fait au moins 2,20 m de hauteur, dites, mais qu'il était ce monstre qui était là-dedans. Hein. Ben, c'était un colosse. Voilà. Et donc, il avait une lance, je crois, qui faisait 3 mètres, avec le métal, la pointe de la hanse, qui faisait 2 kilos. Hein. Donc, il lançait ça, vous voyez, il vous traversait de part en part à 50 mètres. Alors, un géant du nom de Goliath, revêtu d'une armure d'airain, c'est-à-dire de bronze, sortit du camp ennemi. Il s'adressa au bataillon d'Israël et leur cria, « Choisissez-vous un homme qui descende contre moi. S'il peut lutter avec moi et me battre, nous serons vos serviteurs. Mais si je l'emporte sur lui, vous deviendrez nos serviteurs. » Donc c'était le principe d'arrêter une guerre avec un héros. Vous voyez, c'était pas mal comme proposition, sauf que le bonhomme, là, était assez impressionnant. Et il dit, « Ouais, votre armée, votre Dieu, c'est un gros nul !» Et là, vous avez Dieu qui est là, il fait, « Ouais. » Voilà. Donc, ils sont bien embêtés. Et le roi, un peu âgé maintenant il a 35 ans. Oh, non, je sais pas quel âge il avait. En entendant ces paroles, le roi Saül et tout Israël furent effrayés. Le roi aurait peut-être dû se battre avec Goliath, mais s'il meurt, ça serait dommage. Il n'aurait plus droit, hein. Goliath s'avança de la sorte, menaçant matin et soir. Bande de lâches! Votre Dieu est un gros nul! Un jeune homme nommé David passa par le camp des Israélites, celui qui avait été sacré par Samuel. Il entendit Goliath. Alors il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres, très lisses, et les mit dans son sac de berger. Et il demanda l'autorisation à Saül d'être le héros de l'armée d'Israël. Et là, Saül, il regarde, il fait « Mais qu'est-ce que tu es, toi ?»« Ah, mais moi, j'ai tué des ours, hein, pour défendre mes brebis. » Enfin, comment tu vas faire? Ben, passez-lui une armure et mon épée. Alors là, vous avez David, là, on lui met une armure, on lui prend l'épée, dit ça un peu lourd, je garde ma fronde. Alors ils sont là, ils laissent faire, Saül est désespéré. Goliath lui dit, suis-je un chien que tu viennes à moi avec un bâton? Approche, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David répondit, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom du Dieu d'Israël que tu as insulté. David porta la main à son sac, en retira une pierre et la lança avec sa fronde. Poum! Elle frappa le Philistin au front. Et Goliath tomba à terre parce que la pierre rentra dans son crâne jusqu'à son cerveau, ce qui a été très difficile pour lui ensuite d'assumer. Oui. David tira l'épée du géant, une grosse épée, hein, et lui trancha la tête. Alors vous voyez, donc si vous voulez lire la Bible bêtement, et ben vous lisez la Bible bêtement et vous ferez la guerre tout le temps et vous serez content de faire la guerre. Mais il est vrai aussi que Dieu peut donner la victoire à des armées chrétiennes. Mort de Saül. Lorsque David revint du combat contre Goliath, les femmes chantèrent « Saül a tué 1000 Philistins, mais David en a tué 10 000 !» Cette démonstration déplut à Saül, qui conçut contre David une violente jalousie et résolut sa perte. Pour calmer les fureurs du roi, David joua de la harpe devant lui. Il aimait beaucoup la harpe, David. Et c'est pour ça qu'il chantait ses prières, les psaumes. Mais ce fut en vain. Saül essaya de le percer de sa lance. David s'enfuit au désert. Le roi l'y poursuivit avec 3 000 hommes. Il arriva alors que les Philistins attaquèrent de nouveau les Israélites. Saül rassembla une armée sur le mont Gelboé, où il fut vaincu. Jonathan et deux autres fils du roi restèrent parmi les morts. Saül, grièvement blessé, se jeta sur la pointe de son épée et mourut dans le désespoir. Enfin, c'est un Philistin qui l'a achevé ou un Iduméen qui l'a achevé. Il est revenu avec des preuves qu'il avait, il avait été auprès du roi Saül et dit « C'est moi qui l'ai tué et c'est moi qui l'ai achevé vraiment, c'est moi. » Et David, « Tu as porté la main sur le roi ?» et il l'a fait tuer. C'était voilà, des mœurs très très fortes. Hein. David pleura la mort de Saül et celle de Jonathas. Alors vous avez des associations homosexuelles qui disent que David et Jonathan étaient homosexuels et étaient ensemble. Quand vous lisez la vie du roi David, il n'était pas vraiment... Alors on va vous dire, mais il était bisexuel. À l'époque, ça se serait mal passé, vous voyez. Donc, même roi, même tout ce que vous voulez. Hein, vous avez une association qui s'appelle David et Jonathan et qui dit que c'est faux. Mais bon, il y avait une très grande amitié entre eux, par contre. C'est comme le cardinal Newman qui avait une très grande amitié avec un ami et qui a demandé à être enterré à ses côtés. Mais c'était une très grande amitié spirituelle. Car Newman était un homme de très vertueux. Et si vous voulez... on peut avoir une amitié sans passer par le lit. sans coucher ensemble et sans avoir des actes sexuels ensemble. Saül avait bien commencé, mais il commit la faute de ne plus compter que sur ses propres forces. Il mit Samuel au rancard. D'habitude, c'est moi, enfin là, bon. Il mit Samuel de côté et il oublia Dieu, ainsi fut-il rejeté. Un moment, pendant Samuel était mort entre-temps, et il avait demandé à une sorcière d'invoquer l'âme de Samuel pour savoir s'il allait gagner la bataille. À une nécromancienne. Hein? Alors que Saül, parce qu'à un moment donné, il avait quand même peur, il avait fait éliminer toutes les sorcières et toutes les nécromanciennes. Et là, il dit, il faut que je sache, il faut que je fasse venir l'âme de Samuel pour savoir ce qui va m'arriver. Et là, les officiers du roi lui disent, mais tu as fait tuer toutes les nécromanciennes. Je veux en trouver une. Alors, il y en a un qui faisait un peu d'idolâtrie et de culte de démons, tout en étant un brave juif. Enfin, il dit, j'en connais peut-être une. Bon, alors allons-y. Alors ils y vont, et il se cache et tout, et il va voir cette femme. Et c'était pas une escroc, c'était pas une personne qui vous dit dans une petite carriole à la foire du trône, il vous voit arriver, à votre avis, est-ce que je vais réussir mon entretien d'embauche? Ça va être difficile. Prenez un peu un calmant, tout ça, machin. 50 euros. Ça, c'est Madame Irma. Par contre, quand vous avez une vraie sorcière, dit, je voudrais que ma maman me parle. Vous avez la bonne femme ou le bon homme, il est là. Il demande au démon de parler, voire même d'apparaître sous la forme de la maman. Et là, ça rigole plus du tout. Hein. C'est du spiritisme. Ce sont des sorciers ou des sorcières, et ils ont un pacte avec les démons. Et c'est possible. Ça existe. Mais vous, par contre, quand vous faites ça, vous tombez dans la superstition, une superstition épouvantable, et vous noyez. En plus, c'est même pas votre maman qui va vous répondre. Hein. C'est un démon qui connaît parfaitement votre maman, qui va contrefaire toute sa vie, tous les détails, qui va contrefaire sa voix. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la nécromancienne, figurez-vous, elle rentre en transe, là. Enfin, à un moment donné, elle reconnaît le droit. Elle dit, oh, il va me tuer. Non, je suis là pour, justement, parce que t'es une sorcière et tu vas invoquer l'âme de Samuel. Alors, elle est là, oh, âme de Samuel, reviens. Sinon, il va me tuer. Oh, reviens. Et là, vous avez l'âme de Samuel qui arrive, un fantôme, un vrai, de vrai. Et là, Samuel est là. Comment as-tu osé? Dieu m'a permis de venir jusqu'à toi. En plus, tu utilises les services d'une nécromancienne. Tu vas mourir et tu vas perdre cette bataille et tes fils vont mourir. Bon, j'aurais peut-être pas dû... Voilà. Au revoir Samuel. Bon, est-ce que Saül a sauvé son âme? On ne sait pas, on verra. En tout cas, ce fut un très mauvais passage pour lui. Et donc, David, lui, va être là. Et il aura encore quelques difficultés pour être reconnu roi après Saül. Mais il va devenir le roi. Et je dois terminer parce que sinon le titre de ce soir ne va pas être justifié. David, le roi pieux. Après, on prendra Salomon et les prophètes. Alors, hein. Les prophètes. Ouais, on va lire rapidement David et Salomon. On va voir. David fut un roi selon le cœur de Dieu. Il pratiqua la justice et l'équité à l'égard de son peuple. Aussi le Seigneur le fit triompher de tous ses ennemis. Au temps de Samuel, le principal centre religieux était à Silo, où résidait l'Arche d'Alliance. David l'amena à Jérusalem. Sur le chemin, il y a eu un petit incident. L'Arche a failli verser, et un Lévite, et non pas un prêtre, a posé la main sur l'Arche, et il est mort sur le coup. Il n'y a que les prêtres qui peuvent toucher l'Arche d'Alliance. quelques semaines plus tard, le lieu où l'Arche d'Alliance avait été déposée a connu une prospérité particulière et on a porté l'Arche jusqu'à Jérusalem. Et David dansait devant l'Arche et, comment dire, sa femme le regardait, tu es ridicule. Du coup, David n'a plus jamais honoré. Voilà. Mais David est connu pour chanter, prier. Il y eut une belle procession. Le roi lui-même y prit part, dansa devant l'arche et offrit des sacrifices au Seigneur. Tous les 10 mètres, je ne sais plus, il sacrifiait 10 brebis, 20 vaches. Enfin bon, tout le monde a mangé. Là, tous ces sacrifices, c'était pour qu'il y ait un festin à l'arrivée. Vous aviez plusieurs, peut-être 500 000 juifs qui étaient là, 500 000 israélites. Donc il fallait faire de la nourriture pour tout le monde. David était un bon musicien. Il a composé des cantiques appelés psaumes que les israélites chantaient dans leurs fêtes religieuses ou nationales et que l'église redit dans ses offices. Ces chants inspirés ont surtout pour objet le Messie, l'envoyé, le sauveur, et les circonstances de sa vie, son enfance, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, son ascension et sa royauté éternelle. C'est pourquoi David est parfois appelé le psalmiste. Extrait des psaumes. Psaume 50. Alors le roi David apparaît comme divinement inspiré. Il demande à sa harpe les mélodies les plus sublimes pour l'aider à témoigner à Dieu sa profonde reconnaissance. Il invite tous les hommes à remercier le Seigneur avec lui. Les anges eux-mêmes s'associent à ce concert de louanges. Psaume 50. Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde et selon l'étendue de tes bontés, efface mon péché. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes offenses et mon péché est constamment devant moi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle au-dedans de moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi par une volonté généreuse. Je passe pour arriver à la page 40. David battit tous ses ennemis. Dans la joie de sa victoire, il n'oublia pas Yahvé. Il voulut faire de sa capitale la ville sainte, la ville de Dieu. L'Arche d'Alliance fut donc apportée triomphalement à Jérusalem. Dieu prenait vraiment possession de la capitale de son peuple. À cette occasion, le roi David eut à cœur de montrer qu'il se regardait comme le serviteur de Yahvé. Mais un jour vint où David trouva qu'il n'avait pas encore assez fait pour honorer Dieu. Il se reprochait d'habiter dans une maison de cèdre, de magnifiques troncs de cèdre du Liban, alors qu'il avait fait déposer l'arche de Dieu sous l'arche, sous le tabernacle, la même tente qu'au désert. Teinte, très belle, mais bon. Il manifesta au prophète Nathan, parce que Samuel était mort, son intention de bâtir une demeure au Seigneur, le temple. La nuit suivante, le même prophète recevait la réponse de Dieu. « Va dire à David, je ne désire pas que tu me bâtisses une maison, parce que j'habite toute la terre, mais il passe ce passage. Mais bon, je te concède qu'un temple soit fait. » Mais il ne voulait pas qu'il y ait un temple, Dieu, Parce que le temple, c'est l'âme. C'est Jésus, le temple. On ne doit pas reconstruire le temple à Jérusalem. Quand vous avez les protestants hyper-sionistes qui veulent aider les sionistes à reconstruire le temple sur l'esplanade des mosquées, en plus, raser la mosquée du Dôme, c'est la Troisième Guerre mondiale. Non. C'est comme ça. En retour de tes bonnes intentions, je donnerai la paix à ton peuple, maintenant implanté fermement dans la terre promise. Moi-même, je te bâtirai une maison, une dynastie sans fin. Pour commencer dignement cette glorieuse lignée, je te donnerai un fils dont je prendrai soin moi-même, comme s'il était mon enfant. S'il fait le mal, il sera châtié, mais cependant, il ne sera pas rejeté comme Saül, car son trône sera affermi pour toujours. C'est lui qui exécutera le projet de son père et qui le mènera à bien. Trône pour toujours, Salomon, il est mort. Donc c'est Jésus, le descendant de David, selon le sang. La Vierge Marie est de la tribu de Lévi et de la tribu de Juda. Joseph est de la tribu de Juda, mais la Vierge Marie, il y a eu un mariage entre un membre lévitique et un membre de la famille royale de David, de la tribu de Juda. David, profondément ému par ce message, se rendit au sanctuaire où reposait l'arche, s'assit devant Yahvé et lui exprima longuement sa reconnaissance. David succomba à une tentation. Là, on vous dit qui le surprit lorsqu'il vivait dans l'oisiveté. Il convoita la femme d'Uri, un de ses meilleurs officiers. À ce mauvais désir, il joignit un ordre criminel en commandant d'exposer Uri au danger afin de le faire tuer par les ennemis parce que il avait fait un enfant adultère à cette femme. Le prophète Nathan lui fit des reproches sévères et le roi coupable rentra en lui-même et dit avec une profonde douleur « J'ai péché contre Dieu ». Le Seigneur accepta son humiliation et sa pénitence et il lui fit dire par son prophète « Tu ne mourras pas, mais le malheur viendra sur ta maison ». C'est-à-dire que la fin de la vie de David, il a payé quand même ce meurtre et ça s'est assez mal passé, même s'il s'était repenti. Alors Dieu apparaît en songe alors l'enfant d'ailleurs mourra, hein, l'enfant comment elle s'appelle?
Bethsabée.
Et donc le prochain enfant Bethsabée, c'est Salomon. Et ben finalement, comme elle était veuve, mariage légitime ensuite avec David, donc Salomon sera quand même le successeur. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Jésus a dans sa lignée des saints et des pécheurs. Il y a des rois qui étaient des vrais crapules, des rois qui ont été des saints. Mais vous vous rendez compte que son aïeul était une femme adultère, Bethsabée. Donc Dieu, si vous voulez, purifie la nature humaine. Hein. Il n'a pas honte d'être de cette nature humaine. Et il la purifie. Alors, pour terminer, Salomon, le roi bâtisseur, Salomon demande la sagesse. Dieu apparut en songe à Salomon et lui dit, il y a eu une petite dispute pour qu'il devienne roi, mais il est devenu roi. Hein. Demande ce que je dois te donner. Salomon répondit, Seigneur, je suis un tout jeune homme, je ne sais pas agir en chef. Il a 18 ans. Hein. Donne à ton serviteur un cœur plein de jugement, de discernement, pour discerner entre le bien et le mal. Salomon plut à Dieu par cette demande. Le Seigneur lui dit, parce que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, de la richesse, la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé le discernement du jugement, voici que je te donne un cœur sage et intelligent comme personne ne l'a eu avant toi. Je te donne aussi une richesse et une gloire comme à personne parmi les rois. Et si tu gardes mes commandements comme a fait ton père David, je t'accorderai une longue vie. Salomon eut l'occasion de prouver sa sagesse. Hein, le jugement de Salomon, c'est deux femmes qui habitaient ensemble se disputèrent un nouveau-né. Elles soumirent leur querelle au roi. L'une dit, c'était deux prostituées, hein, cette femme a étouffé son enfant pendant la nuit. Elle l'a pris le mien et elle a mis à sa place le cadavre de son fils. L'autre femme soutint que l'enfant vivant était bien le sien. Non, c'est à moi, non, c'est à moi. Le roi dit alors à l'un de ses gardes, prends l'enfant vivant, coupe-le en deux et remets-en la moitié à chacune de ses femmes. La véritable mère s'écria, je vous en conjure, ne tuez pas mon enfant, donnez-le plutôt vivant à cette femme. L'autre, au contraire, disait, eh bien que l'enfant ne soit ni à toi ni à moi, mais que l'on partage l'enfant en deux. Alors, ça vous semble évident, mais bon, c'était à faire, hein, quand même. Vous l'auriez peut-être pas fait, vous n'auriez pas osé. Hein. Salomon reconnut ainsi la vraie mère et lui fit remettre son fils. Tout le peuple admira le jugement du roi et reconnut que la sagesse de Dieu était en lui. Salomon jeta les fondements du temple que David avait projeté de bâtir sur le mont Moria, là où Abraham a failli sacrifier Isaac, à la gloire du Seigneur, là où se trouve la mosquée du Dôme. Voilà. 2000 ouvriers travaillèrent pendant 7 ans et demi à construire ce superbe édifice. Sa richesse et sa beauté en firent l'une des merveilles du monde. Lorsque le temple fut achevé, Salomon convoqua les anciens d'Israël et à Jérusalem pour y faire monter l'arche de l'Alliance. Les prêtres portèrent l'arche. Le roi et tout Israël avec lui sacrifièrent moutons et bœufs en quantité innombrable. Salomon se tint devant l'autel en présence de toute l'assemblée d'Israël. Alors l'autel où on sacrifiait les animaux et on les brûlait ou on les cuisait, pour ceux qui n'étaient pas totalement consumés, était devant le temple. Le temple avait le saint, où il y avait l'autel des parfums et le candélabre, et derrière le grand voile, le saint des saints, où était l'arche d'alliance. Seigneur Dieu d'Israël, les cieux ne peuvent vous contenir, combien moins cette maison que je vous ai bâtie. Daignez cependant jeter sur elle un regard de miséricorde et exaucez tous ceux qui vous prieront ici. Alors le feu descendit du ciel et consuma les victimes qui avaient été posées sur l'autel. Vous avez des éclairs qui tombèrent et qui brûlèrent complètement les moutons et les vaches qui étaient sur le grand autel devant le temple. Ça a été cramé. Vous voyez ? Bon, très bien. Ensuite, le Seigneur apparut à Salomon et dit « Mes yeux et mon cœur seront dans cette maison à jamais. » Et là, vous avez la nuée du désert qui réapparaît devant plusieurs centaines de milliers de Juifs. Une colonne, une tornade de nuages lumineuses descend sur le temple. Et là, tout le monde est aveuglé. Les prêtres qui étaient à l'intérieur du temple s'enfuient, ne peuvent plus rien voir. Ils sortent, tout le monde court. Et quand ils sont en dehors du temple, ils voient ce spectacle impressionnant. Au-dessus du temple se trouve la nuée du désert. Sauf que eux, ils en ont entendu parler, c'était il y a 400 ans, 300 ans. Vous voyez ? Et ils voient la nuée du désert qui sanctifie le temple. Voilà, au-dessus de l'Arche d'Alliance qui est dans le Saint des Saints. Mais Salomon, à la fin de sa vie, il va pécher. Et quand il s'est converti, dit-on, il va écrire les livres sapientiaux. Certains disent, mais non, c'est pas lui qui les a écrits, c'est des prêtres, c'est des lévites et tout ça. Le cœur de ces livres, c'est Salomon qui les a écrits. Et il dit justement, j'ai été très riche, j'ai été très puissant, j'ai fait n'importe quoi. Tout est vanité. Et je demande pardon. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Quand il fut vieux, là, il donne pas le chiffre, 300 femmes, 700 concubines. Quand il fut vieux, elles détournèrent son cœur vers les idoles. Il ne fut plus soumis au Seigneur comme avait été son père David. Il fit construire des sanctuaires aux faux dieux. Alors Dieu lui dit, parce que tu n'as pas observé mon alliance, je vais t'arracher le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Ce ne sera pas durant ta vie, en considération de ton père David, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Encore, je lui laisserai une tribu, en considération de mon serviteur David, et de Jérusalem que j'ai choisi. À la mort de Salomon, en l'an 930, David c'est l'an 1000, 930 avant Jésus-Christ, son royaume fut divisé, 10 tribus choisirent pour roi, un général, Jéroboam, et formèrent le royaume d'Israël. Lui, il a construit un temple dans la ville de Samarie, et il a refait le dieu Apis, le veau d'or du mont Sinaï. Donc c'est un schisme religieux et une hérésie. Les tribus de Juda et de Benjamin restèrent fidèles à Roboam, le fils de Salomon, et formèrent le petit royaume de Juda, le royaume du sud, qui eut Jérusalem pour capitale. C'était le royaume légitime, mais vous aviez 12 tribus qui étaient dans le royaume schismatique et qui a gardé le nom principal d'Israël. Tandis que le royaume légitime prenait le petit nom de royaume de Juda. Voilà. L'histoire de Salomon nous montre que la prière faite à Dieu d'un cœur sincère est toujours exaucée. Le Seigneur aime la splendeur des fêtes et des édifices religieux. Ça, c'est des curés qui écrivent ça. La fréquentation des incroyants nous expose à perdre la foi. Voilà. Et donc, nous ferons la prochaine fois les prophètes et la promesse du Sauveur. Voilà. Avez-vous des questions ? comment on fait stop là-dessus? Voilà. Avez-vous des questions sur cette épopée? Je peux vous assurer que si vous lisez ça tout seul, vous vous noyez. Je peux vous assurer qu'on est déjà... on a fini le Pentateuque, qu'on a le livre des juges, on a le livre des rois, on a le livre de Samuel. On a déjà lu un tiers de la... même pas la moitié de la Bible. Hein. Alors les gens qui essayent de lire la Bible en entier, ben voilà, ils se noient. Comment ? Ah ben, il est dans... Ah ben, oui. Comment ? Ah mais vous avez le tombeau d'Abraham aussi quand même. Le tombeau d'Abraham, hein, et vous assurez que aussi bien les juifs et que les chrétiens d'ailleurs, mais un peu plus loin, l'honore beaucoup. Ça c'est le tombeau aussi de Joseph, le tombeau d'Isaac, le tombeau de Jacob. Le tombeau de Jacob, vous vous rendez compte? Alors c'est un vieux tombeau, c'est tout en plus. Hein. Comment? Il est de l'âge de bronze, hein, c'est déjà. Et le premier qui essaye de l'ouvrir pour voir que ça, là, tout le monde lui coupe la tête. Il n'aura pas assez de tête pour satisfaire tous les gens enragés qui lui diront tu ne respectes pas le fondateur du peuple. Là, il sera, je sais pas, il restera quelque chose. Chacun prendra un don. Non, non, mais c'est le, j'avais le droit, le tombeau d'Abraham. Et alors, je crois qu'il a Hébron. C'est un sujet de dispute assez fort. Et moi, j'avais vu une émission incroyable d'un rabbin qui est extrêmement raciste. Vraiment. Sur internet, c'est une méchanceté. Donc, il a fait un voyage en Israël où à un moment donné, il dit voilà, nous sommes obligés de le partager avec ces musulmans affreux, méchants musulmans. Voilà. On va aller voir comment il s'exprimait. Hein. Parce que les musulmans viennent en pèlerinage au tombeau d'Abraham. Un peu moins sur le tombeau de David, hein. Non. Quoique Salomon est un personnage biblique important. Hein. Alors les kabbalistes font de Salomon un magicien. Quelqu'un qui était versé dans les... Alors, d'ailleurs, à ce propos, je prends une question du temple de Jérusalem qui est sur le champ de Mars. C'est le 15 décembre. Le 15 décembre. À 14h30, on sera rue de Belgrade au monument des Trois Hommes. Alors, peut-être que je prendrai un petit... en tout cas, je vous donnerai un plan de métro ou autre. À 14h30, je vous ferai visiter le temple de Salomon, tel que les francs-maçons l'imaginent pour leur pouvoir universel. Il est rue de Belgrade, à Paris. Il a été construit en 1789 pour le bicentenaire de la Révolution française, monument des droits de l'homme et du citoyen. C'est le temple de Salomon en miniature, 10 mètres sur 7, avec les deux colonnes, le temple, tout ce qui est. Et c'est en l'honneur de Lucifer. Donc c'est un blasphème, parce que Salomon l'a fait en l'honneur de vrai Dieu. Et 100 ans plus tôt, en 1889, les francs-maçons avaient fait la tour Eiffel, qui est la tour de Babel. Mais c'est connu, hein, les francs-maçons, celui qui a fait le plan, celui qui a fait construire la tour Eiffel, ce sont des cabane. Eux, ils interprètent la Bible contre, en l'honneur de Jésus-Christ. Et contre Jésus-Christ, comme les fous. Et donc, les fous qui ont fait le temple des droits de l'homme, le champ de Mars, c'est pas le mur de la paix. Hein. Vraiment, quand ils vont regarder, qu'est-ce que c'est que ça? Et en plus, vous avez trois statues en bronze devant, dont deux qui prient, et vous avez la statue de la liberté. La liberté, c'est un don des francs-maçons français aux francs-maçons américains, à la fête de la mer, dans la Bible. La fête de la mer, il a 17 cornes, elle porte la lumière, les symboles du ciel. Mais en soi, les Américains qui connaissent bien l'histoire, bien la est éminemment maçonnique, et il y a bien une explication particulière comme par exemple à Washington. À Washington, vous avez une impressionnante série de temples maçonniques au cœur du pouvoir américain. Vous avez un obélisque géant en l'honneur des dieux égyptiens. Tous les obélisques à Rome sont surmontés d'une croix en bronze pour montrer que Dieu, le Dieu de Moïse, Jésus, a vaincu l'idolâtrie égyptienne. C'est pour ça qu'il vous avez un immense obélisque qui se trouve place Saint-Pierre, devant la basilique du Vatican, et qu'on a écrit dessus ce qu'on appelle le bref de Saint-Antoine de Padoue. Voici la croix du Seigneur, fuyez partie adverse, il a vaincu le lion de Juda, la croix en bronze, et dans cette croix, il y a une reliure de la vraie croix, deux morceaux de bois pris de la vraie croix en forme de croix dans la croix en bronze, au-dessus de l'obélisque. Les francs-maçons français, eux, ont mis l'obélisque place de la Concorde pour montrer qu'ils avaient tué le roi Trébien. Il n'y a pas une croix au-dessus de l'obélisque de la place de la Concorde. Et vous avez un immense obélisque en maçonnerie, c'est ce que je veux dire, parce qu'il fait sur plus de 100 mètres d'eau, c'est une construction, hein. C'est pas une pierre monolithe, hein, à Washington. Immense obélisque. Avec, et vous avez au-dessus du Capitole la déesse, la femme du dieu des enfers, Persémone. Qu'est-ce qu'elle fout là? Vous avez le Capitole, l'Assemblée nationale américaine, hein, le Sénat est au même endroit, je crois que les deux chambres sont au Capitole. Et vous avez au-dessus de cette immense tambour, colonne, hein, surmonte le bâtiment, vous avez Persémone, qui est la femme de Dieu des Enfers, Pluton, Hadès. Et alors elle passe 6 mois en enfer et 6 mois dehors parce que plus elle était mariée, elle était la maîtresse. Non, mais la Tour Eiffel, depuis, si vous voulez, c'est une œuvre humaine qui est impressionnante. Donc on peut très bien aimer la Tour Eiffel sans être français. Ah oui, Tour de Babel, terminé. On a réussi. Bon, on est victoire avec la plus. Dès la primaire, le but de toutes les possibilités
la vie sur terre sera invivable, le Christ a dit, si les jours de l'Antéchrist ne sont pas abrégés, même les personnes honnêtes seraient en danger de faire désespérer. Vous voulez imaginer que toutes les écoles privées soient interdites et qu'on on enseigne à tous les enfants en primaire toutes les pratiques sexuelles possibles et imaginables. C'est pas possible, ça existe déjà. Aux États-Unis ou dans certains pays, on vous explique ce qu'est une sodomie ou machin de 35 ans. Pardon. En Allemagne, je ne sais pas. Ah oui, oui, mais c'est très très ouvert. Vous connaissez la bande dessinée. Il a participé à une exposition à la Villette qui a fait le tour de France et surtout des pays francophones. Vous aviez le couloir de la masturbation où on apprenait aux enfants, c'est un couloir très bas, une taille, pour que les enfants de 10-12 ans passent et voient comment on se masturbe. Et les parents ne les accompagnent pas parce qu'il y a des dessins dans le couloir. Et vous aviez aussi une autre animation très drôle avec des sexes en latex, des femmes, des reproductions parfaites du sexe féminin, du sexe masculin en latex. Là, il y a une très bonne imitation qu'ils pouvaient manipuler pour voir ce que ça donne. C'est pas de la pédophilie, ça. Franchement, hein. Eh oui, mais c'est le zizi sexuel, c'est l'exposition qui a fait le tour de France ensuite et qui a pas de la Villette. Hein. Pour le manuel, la prochaine fois j'en aurai acheté et je vous en apporterai. Sinon, c'est à la librairie technique de Mézières.